en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui Yves Pouliquen, grand nom de l'ophtalmologie française, représentant d'une catégorie malheureusement en voie de raréfaction, celle des grands médecins humanistes, par leur culture, par leur regard sur le monde, mais aussi par le fait que dans leur métier, ils ne considèrent la technique que comme un moyen, capital certes, mais un moyen au service de la relation à l'autre et de la relation aux autres. Yves Pouliquen, qui a été élu à l'Académie française il y a un peu plus de 10 ans, c'était le 29 novembre 2001, au fauteuil numéro 35, occupé juste avant lui par Louis le Prince Ringuet. Yves Pouliquen, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel, cette question récurrente posée donc à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Tout de suite, la première question. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent à vos yeux, Yves Pouliquen, le moment essentiel?
C'est probablement en 1980.
L'Hôtel Dieu?
L'Hôtel Dieu, bien sûr. J'ai été nommé chef de service d'ophtalmologie de l'Hôtel Dieu. J'y étais à la suite de mon grand maître, Guy Auffray, un breton comme moi, et que j'avais déjà servi pendant une quinzaine d'années. Ce qui fait que je connaissais parfaitement le service, que j'avais contribué au développement de celui-ci, et que j'y ajoutais une note personnelle, c'était l'héritage d'une unité de recherche de l'INSERM, la première créée en recherche ophtalmologique française. Donc, j'avais hérité parce que M. Perrault, qui était un médecin militaire avec lequel j'avais travaillé...
Au Val-de-Grâce, c'est ça.
Au Val-de-Grâce, qui était aussi mon maître. Donc, je cumulais, si vous voulez, la clinique et la recherche, ce qui... À l'époque, était encore une possibilité. Je crois que ça l'est difficilement maintenant, parce que les deux voies sont tellement vastes qu'on peut difficilement être à la fois un clinicien et un chercheur. Mais c'était encore possible. C'était un temps rêvé, d'ailleurs, parce que les sujets qui nous étaient présentés, on pouvait les aborder, on pouvait les débrouiller, on pouvait commencer à réfléchir aux causes des maladies. Et c'était un moment absolument exaltant. Et je pense que cette association fut à l'origine d'une grande fréquentation par les étrangers de mon service et aussi d'une renommée, d'un renom international qui a été, je le crois, même si c'est immodeste, mais assez notable.
Au point de départ, c'est la biologie qui vous intéressait?
Oui, alors au point de départ, j'ai perdu mon père très jeune et mon père était instituteur, lui-même fils de cheminot. Et il avait pour ambition que ses fils travaillent bien, je travaillais bien. Il m'avait dit, toi, tu seras normalien, tu prépareras normal supérieur. Et ma mère avait gardé à sa mort, mon père est mort, il avait 37 ans. Ma mère a gardé à sa mort cette idée. Et j'ai été sélectionné par la Normandie pour venir au lycée Saint-Louis préparer normal sup en sciences expérimentales. J'ai tout de suite calculé que ma position en mathématiques ne me permettrait pas d'être dans les premiers, dans ceux qui seraient recrutés au moins dans l'année. Et loin de là. Là, je me suis confronté vraiment à des forts en thème.
Et c'était à Louis-le-Grand, c'est ça?
Sinon, c'était à Saint-Louis.
À Saint-Louis.
À Saint-Louis, j'étais pensionnaire là. Et j'étais très influencé par Albert Delaunay, qui était à l'Institut Pasteur, et qui m'avait mis dans la tête le rêve de la biologie. Et je me suis dit, je vais aller le voir. Je suis allé le voir dans les 6 semaines de mon internat à Saint-Louis. Et il m'a dit, écoute, tu fais fausse route, normal, c'est bien, mais la biologie, tu ne l'atteindras pas. Sois médecin. Or, la difficulté était que j'étais boursier d'État, que j'allais abandonner le lycée Saint-Louis et que je suis allé m'inscrire au PCB sans que ma mère le sache et sans que le proviseur de Saint-Louis le sache. Il a fallu que j'annonce après. Vous voyez, donc, alors je ne regrette rien parce que je suis devenu médecin et ça ne m'a pas trop mal réussi.
Et est-ce qu'il est exact que vous ayez choisi l'ophtalmologie par amour? J'ai entendu ça.
Oui, non, mais c'est vrai. Exact. Oui, c'est par amour et par hasard. Nous avons défini ce matin au dictionnaire le mot rencontre. Eh bien, j'ai rencontré mon épouse lorsque je me suis inscrit, celle qui deviendrait mon épouse, lorsque je me suis inscrit au PCB. J'étais derrière elle. Et je dois dire que j'ai dû lui faire la cour 3 ans avant qu'elle accepte d'imaginer qu'on puisse vivre ensemble. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
C'est comme ça. Alors, vous avez donc mené, vous disiez tout à l'heure, cette carrière à la fois de clinicien et de chercheur. mais vous êtes aussi énormément battu, à la fois sur le plan français et au niveau international, pour que puisse être réalisée toute une série d'opérations qui, malheureusement, étaient un peu contingentées jusque-là. Alors, il y a eu cette activité essentielle qui est la Banque des Yeux. Vous avez présidé la Banque des Yeux entre 85 et 98.
C'était
une époque où il y avait un gap considérable, non ?
Ah oui, c'était très difficile. Il y a eu des erreurs dans les prélèvements. L'erreur d'Amiens, qui était une histoire terrible, où les parents avaient autorisé au prélèvement d'organes d'enfants, mais n'avait pas été sollicité pour les yeux. Et on a prélevé les yeux sans prévenir la famille. Et la famille l'a constaté après, a été horrifiée. Mais c'est vrai, c'est vrai.
Oui, parce qu'à l'époque, on prélevait l'œil entier ou...
Oui, on prélève l'œil entier.
C'est très impressionnant, quand même.
Oui, très impressionnant. Et d'ailleurs, ça nous a donné, je dirais, l'occasion de réfléchir profondément au problème. Et nous avions une pénurie totale de globes. Et j'ai recréé alors le prélèvement de la cornée seulement. Alors ça, on a mis au point cette chose.
Ça, qui c'est 8 mm.
Oui, c'est les 10 mm, si vous voulez, de la cornée. On mettait une lentille de contact sur l'œil qui restait en place. Et on n'était plus, comme j'ai été qualifié, un voleur d'œil, un voleur d'yeux, comme les journaux le disaient à l'époque. Or, cette longue pénurie de globes, je l'ai vécue. Et finalement, c'est arrangé par la création d'une banque beaucoup plus moderne, de cette nouvelle manière de prélever les yeux, et surtout, je dirais, d'une transparence dans le prélèvement des globes, avec autorisation non seulement du donateur, mais aussi de la famille.
Alors, il y a cet engagement en France. Vous avez même écrit un roman pour sensibiliser les gens.
Oui, exactement. C'était à cette période-là.
C'est du culot, quand même. Hein.
Oui, mais parce que finalement, nous étions dans une telle impasse que je me suis dit, on va essayer de réveiller les gens par un roman sentimental, et bon, dont je ne reparlerai plus, mais qui...
Oh, ben vous ne devez pas en avoir honte. Et donc, votre action aussi s'est portée sur le plan international, alors avec quelque chose d'important, c'est l'Organisation pour la prévention de la cécité.
C'est vrai, oui.
Là, c'est toute l'Afrique, c'est la francophonie de façon générale, mais surtout l'Afrique.
Ça a été une belle mission. J'ai été le président pendant 12 ans.
97-2010, hein, c'est à peu près, c'est ça.
Et je dois dire qu'on a développé des actions dans toute l'Afrique francophone. Et une action qui a été d'abord essentiellement dirigée contre l'onchocercose, qui est la cécité des rivières, qui est due à une filaire transmise par une petite mouche, dont le traitement a été radicalement efficace par la découverte d'un médicament qui s'appelle l'ivermectine et que les établissements Merckx ont donné à l'humanité. Enfin, on fait don à l'humanité de ces... Et nous soignons depuis ce temps-là à peu près 3 millions, 4 millions de personnes dont on est sûr qu'ils ne seront pas aveugles. Et sur ce fonds de traitement de l'onchocercose, on a développé le traitement de la cataracte, on a établi un réseau, on a développé beaucoup de choses. Et puis ça m'a permis de reprendre contact, ce qui avait été un petit peu relâché, avec les universités et les médecins, les ophtalmologistes africains, qui ne fréquentaient plus beaucoup notre pays et qui, à l'occasion du grand déploiement de l'OPC, ont accepté de revenir à Paris. Et maintenant, ils viennent très nombreux à Paris tous les ans. Et leurs livres sont des livres français et non plus des livres américains. Voilà.
Alors, quand je cherchais les hommages qui vous ont été adressés, il y en a un qui m'a particulièrement touché. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. C'était il y a 18 ans, un grand quotidien qui s'appelait Libération a adressé un portrait de vous. Savez-vous comment il l'a intitulé ?
Non,
je le magicien d'œil.
Oh, c'est beaucoup trop. Oui, c'est beau, mais c'est beaucoup trop.
C'est beau. Mais en plus, je pense que le journaliste qui a écrit cela savait qu'historiquement, l'ophtalmologie est liée quelque part au sacré et à la magie, non ?
Oui, bien sûr. Mais c'est une discipline très, très particulière. Et d'ailleurs, très émouvante dans le rapport que nous avons avec le malade, avec le patient, qui vous confie son œil et qui vous dit à chaque fois, « Docteur, pour moi, c'est essentiel. » Il oublie probablement tous les autres, mais pour lui, c'est essentiel. Parce que c'est vrai que la vue est un élément essentiel, dominant et rentrant dans, je dirais, dans ce que les hommes imaginent, ce qu'ils sont comme un élément essentiel de leur existence. Alors,
une des raisons pour lesquelles c'était les prêtres et les druides qui avaient la charge de cela.
Oui, mais c'était de toute la médecine, si vous voulez.
De toute la médecine.
Ah, la médecine a appartenu au clerc pendant toute l'Antiquité et même s'est prolongée au début de nos premiers siècles. Ce n'est qu'après que la médecine est passée dans des mains, je dirais, laïques et dans une vraie profession chirurgicale. Mais la chirurgie de l'œil était incluse dans la chirurgie générale. Et à ce moment-là, on pratiquait pratiquement une seule intervention, celle de la cataracte, en abaissant le cristallin, en transfixiant l'œil avec une épine durcie au feu. On transfixiait l'œil et on allait ébranler le cristallin qu'on décrochait et qu'on laissait libre dans l'œil. Mais la pupille était alors dégagée, et à ce moment-là, ça permet aux gens qui ne voyaient plus rien de revoir les formes, de pouvoir se mouvoir, etc.
C'est une discipline dans laquelle on doit beaucoup aux Arabes, historiquement ?
Historiquement, oui, ben, comme toutes les disciplines médicales. Médicale, ah ça, oui, écoutez, jusqu'au XIIIe siècle, les Arabes ont été dominants. Ils ont été dominants. Il y a toute une chaîne de transfert qui est quand même très intéressante. Il y a eu d'abord la Grèce tout de même, qui a été essentielle, la Grèce antique, qui a été essentielle. Leurs travaux ont été traduits par les Juifs, qui eux-mêmes les ont donnés aux Arabes. Tout ça est très joli. Et les Arabes ont développé une médecine qui a été reprise en grande partie par les Juifs. Et les Juifs, dans une cohabitation avec les Arabes, qui étaient heureuses à l'époque, et qui, finalement, ont fait que le monde chrétien était dans un espace peut-être assez retardé à ce moment-là. Et ce sont les médecins juifs qui sont venus d'Espagne à Montpellier qui ont relancé, si vous voulez, la médecine dans notre pays. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas déjà des écoles de médecine, mais ça a été vraiment, vous voyez, ce transfert de connaissances pas, au travers de communautés différentes est tout de même très intéressant.
Il y avait un œcuménisme scientifique
absolument.
Formidable.
Ben oui, formidable.
Deuxième question récurrente de notre série d'essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire aujourd'hui, Yves Pouliquen, sur votre domaine d'activité ? Donc, soit vous choisissez l'ophtalmologie,
ben non,
soit vous prenez la médecine,
alors sur
là,
soit
autre chose.
Non, sur l'ophtalmologie, parce que c'est quand même toujours mon domaine, je travaille toujours un peu. La discipline ophtalmologique est passée, durant ma carrière, du 19e siècle à l'ère hyper moderne. Et moi, j'ai appris 5 fois comment opérer la cataracte. J'ai commencé comme des gens qui opéraient en 1890 et j'ai terminé avec tous les jeunes chirurgiens maintenant.
Avec à peu près 15 opérations par semaine, non ?
Quelque ah oui, chose à peu près, à oui, peu c'est près, ça, hein. Oui, oui, j'en ai opéré beaucoup, j'en ai opéré beaucoup. Et maintenant, l'ophtalmologie est peut-être une des disciplines qui a fait le plus de progrès pendant ces 30 dernières années. On est arrivé maintenant, si vous voulez, à opérer une cataracte sans hospitalisation, bien sûr, sans anesthésie par piqûre. L'anesthésie se fait uniquement par goutte ou pommade. À opérer le malade, il rentre à 7h30, il rentre à 1h chez lui, et le lendemain matin, il a un œil qui voit. Et c'est tellement efficace, tellement réglementé, tellement, je dirais, contrôlé aussi par l'informatique et par les techniques modernes, que les complications sont tout de même rares. Il y a toujours des complications, c'est toujours une intervention, mais c'est tout de même un degré de réussite qui est exceptionnel en restituant une acuité visuelle qui est quasiment normale.
Et est-ce qu'on prélève des cornées sur les animaux ou pas ?
Ah, sur les animaux pour faire des hétérogreffes ? J'ai fait ça autrefois.
Oui, c'est ça. Mais c'est fini ou pas ça ?
Oui, bien sûr, parce que l'hétérogreffe, comme l'homogreffe d'ailleurs, rentre dans les concepts immunitaires et sont rejetés.
Ils sont rejetés complètement.
Oui, peut-être qu'un jour, on arrivera à dépersonnaliser les greffons d'animaux pour les greffer à des hommes.
Alors, j'ai trouvé une définition de votre activité qui date du XIIIe siècle, donc à l'époque où Saint-Louis fondait l'Hôtel Dieu et l'hospice des 15-20. C'était un savant qui s'appelait Hipernan, Danois.
Oui.
Et voici comment il définissait votre activité. Il doit être bien fait de corps et de tempérament. Il doit avoir de belles mains et des doigts effilés, la vue perçante, ne pas trembler, les idées lucides pour promptement et durement agir. Il ne doit pas être avare, rester modeste et courageux. Il ne doit pas être gourmand, mais sobre et chaste, d'une fidélité à toute épreuve, d'un dévouement absolu, d'une discrétion exemplaire. Des riches, il prendra un bon salaire, des autres suivant leurs moyens, et les pauvres, il les soignera pour l'amour de Dieu. Pourquoi un ophtalmologiste doit-il être chaste et fidèle ?
Oui, à l'époque, ça me paraissait une condition de respect social.
Ah, c'est ça ?
Oui, moi je pense, oui. Non, c'est difficile de ressembler à tout ça.
Oui, mais la fin est belle quand même.
Mais oui, mais non, la description est très belle. Alors là, vous me disiez aussi ce qui a changé. L'ophtalmologie a fait un bond considérable. Ce qui a changé aussi, c'est le rapport avec le malade et le retour du rapport du malade avec le médecin. Moi, j'ai connu une médecine traditionnelle et que je pratique encore. C'est-à-dire que j'écoute le malade, j'ai le temps de l'écouter et je prends ma décision lentement car j'appartiens à ces médecins qui n'avaient que leurs mains et peu de moyens au départ. Et donc, la parole était essentielle puisqu'ils écoutaient, ils consolaient peut-être plus qu'ils guérissaient. Maintenant, on guérit. Et on guérit, heureusement, d'une façon infiniment plus rapide et plus complète qu'autrefois. Mais on guérit au travers d'une instrumentalisation qui est considérable, si bien que le rôle du praticien est devenu presque un rôle d'ingénieur.
Technicien, quoi. C'est
un
ça.
Technicien, oui. Et les malades le ressentent. Les malades
ils
ne
veulent
sentent.
Pas de ça.
Je pense que la jeune génération accepte ça. Oui. Parce qu'elle croit en la technique, elle se dit c'est bien, on n'a même pas besoin de parler. Mais les anciens, je vis encore avec beaucoup d'anciens, eux remarquent un peu à cette espèce de sécheresse qu'il y a entre le médecin et le malade. Une sécheresse d'ailleurs qui est compensée par le succès qu'on va donner,
le
bénéfice qu'on va donner aux malades. Et ce rapport qui a beaucoup changé, et moi qui, à mon âge, me choque un peu.
Alors j'ai regardé à la fois dans un de vos essais, Le geste et l'esprit, et dans votre roman, donc Les yeux de l'autre. C'est curieux parce qu'il y a le même mot qui est employé pour définir, dans les deux livres, le même mot est utilisé pour qualifier les relations entre le médecin et le malade. Alors, écoutez ces deux phrases. La première donc, est extraite de Le geste et l'esprit, qui est un très bel essai donc, sur votre travail. Et la relation chirurgien-malade, vous dites ceci. Il s'agit pour l'un et l'autre de se situer toujours en cette humaine condition qui ne fait ni de l'un un dieu, ni de l'autre une victime, mais des deux, des êtres réunis par une communion sans égale. Notez le mot communion. Dans le roman Les yeux de l'autre, il y a un de vos personnages qui dit exactement ceci. J'ai toujours pensé que la greffe de la cornée, cette cornée hostie, le mot religieux, hein, était une communion. C'est curieux le mot.
Je maintiens cette position. Vous savez, pour moi, et c'est là où on revient à la vocation. Une vocation qui supposerait aussi qu'on en parle, parce que cette vocation, c'est quand même un don de soi aux autres. Hein. C'est une volonté. C'est une volonté. Je me suis efforcé de dire à tous mes élèves que la médecine était relativement simple dans la mesure où le malade qui s'asseyait devant vous, c'était vous. Que ce dont il se plaignait, c'est ce dont vous pourriez vous plaindre. Mais que vous avez cet avantage de connaître, je veux dire, les raisons de cette souffrance et peut-être les moyens de le guérir. Et qu'à ce moment-là, vous vous posez cette question, comment vais-je le lui dire et comment aimerais-je qu'on me le dise ? Quand vous faites ça, je pense que vous accomplissez cette communion que je cite. Pour moi, c'est vraiment là une relation fondamentale entre le patient et le médecin.
Oui, mais là, on est vraiment dans la conception humaniste traditionnelle.
Absolument.
De Jean Bernard, des Monod.
Oui, mais écoutez, elle a fait le bonheur de ma vie. Elle a fait le bonheur de ma vie.
Oui, c'est ça. Hein.
Or, la vocation, là aussi, j'insiste beaucoup sur la sélection des médecins qui maintenant est essentiellement QCM, mathématiques et physique. Je pense que c'est une erreur de négliger le côté littérature, le côté culture chez un médecin, c'est essentiel. C'est essentiel. Or, là maintenant, on est élu sur des QCM où les mathématiciens, auxquels je marque un respect, j'avais un frère polytechnicien, beaucoup de respect, mais je ne suis pas sûr que mon frère polytechnicien avait l'ouverture, vraiment, celle que j'essaie de vous exprimer. Et or,
on voit bien à quoi ça correspond. Hein,
oui, et les Canadiens, par exemple, font des entretiens avec les candidats à la médecine, je crois qu'il y a 3 entretiens très longs entre des médecins et les jeunes candidats pour leur dire ce qu'est la médecine, leur dire ce qu'est la vocation et saisir chez eux si vraiment la vocation existe ou n'existe pas. Et j'ai le souvenir d'avoir fait à Reims une conférence à des étudiants en médecine sur ce qu'était la vocation et j'ai été étonné de leur réaction en disant « Ah oui, ils étaient émerveillés de pouvoir saisir au travers de leur position de médecin » cet avantage, cette espèce de gratitude qui revient de la part du patient lorsqu'on a vraiment la vocation.
Il y a une sublimation de la technique, là.
Oui, absolument. Mais ça, je crois que c'est essentiel. C'est fatigant, hein. C'est épuisant. C'est épuisant. Mais il faut. Mais il faut.
L'humanité épuise, oui. Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel, on va élargir les perspectives à votre regard sur l'évolution du monde en général et celle de notre société. Quelle est, Yves Pouliquen, l'idée essentielle que vous aimeriez faire passer à ce propos, avec la part de jeu que ça correspond,
oui.
À quoi ça correspond, bien sûr.
Je crois quand même qu'il ne faut pas être pessimiste, on vit une période absolument formidable. Écoutez, personne, on peut dire que peu de gens ont vécu dans la paix comme nous. Ma génération qui a...
Première génération depuis le Moyen-Âge.
Voilà, oui, depuis le Moyen-Âge, qui vit dans la paix, à laquelle on apporte un confort de plus en plus grand. Et lorsque je pense à ça, et que l'on nous clame avec pessimisme qu'il y a beaucoup de pauvres, que la pauvreté très répandue est insupportable, etc., je me réfère à ce que j'étais quand j'avais 8 ans, dans la famille de l'instituteur qui était très peu payé, où nous avions des bonheurs quotidiens avec rien, où nous avions une bicyclette comme tout luxe, comme grand luxe, et où les vacances se passaient dans notre village.
Oui.
Et nous étions très pauvres et heureux.
Vous vous souvenez de ce que disait Baudelaire, pourtant sous la tutelle invisible d'un ange, l'enfant déshérité s'enivre de soleil.
Mais oui,
c'est
ça. Mais oui, mais c'est ça. Or, on a substitué, si vous voulez, à ce bonheur très simple, mais qui était un vrai bonheur. Alors, bien sûr, je fais le correctif, l'enfance est un bonheur. Mais tout de même, il y a maintenant, je dirais, une telle volonté, tel désir, que je ne nie pas le malheur, c'est vrai, et la pauvreté, mais que dans cette pauvreté, il devrait exister tout de même cette espèce de compensation un peu spirituelle, un peu même familiale. Et ça, je pense que l'évolution de notre société, celle qu'on a vue se déliter, la famille, la religion, je dirais la solidarité que supposait la vie d'autrefois, nous imposait comme une cure, comme un moyen de vivre assez bien, etc. Ça, je crois que c'est tout de même une des évolutions de notre société qui me frappe un peu. Et puis, un individualisme, qui est peut-être aussi la conséquence de ça, qui est lié. Et je trouve que dans la rue, les gens sont moins aimables qu'autrefois. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que finalement, peut-être qu'ils sont tous aussi... Ils marchent avec un Walkman, des oreillettes qui les isolent du monde. J'ai l'impression que le monde a un peu changé. Moi, je ne m'en plains pas. Hein. De toute façon, mon parcours est presque terminé. Mais je me demande, quand je vois ma petite fille, par exemple, dans ce monde, je me demande où sont les vrais recours. La culture ne semble pas tellement répandue. Elle est très intelligente, elle a une très belle fonction, très belle situation. Elle n'est pas très intéressée par des choses qui me paraissent essentielles lorsqu'on vieillit, c'est-à-dire la culture. Alors vous me direz que Paul Morand m'a dit, dans un dernier lien que j'ai eu avec lui, quand, très peu de semaines avant sa mort, il m'a dit « Écoutez, Poulika, je vais vous dire quelque chose. La vie, j'ai rien compris. Et la culture, ça sert à rien.
» Il pouvait dire ça à Venise, oui. En train de lire.
Voilà.
Stéphane Zweig.
Voilà.
Alors, dans les évolutions concernant votre métier, il y a une chose que l'on constate quand même. Vous avez vécu une médecine qui était, à l'échelle planétaire, une médecine de l'homme, la grande époque de la médecine de l'homme. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt la médecine de la Terre qui prévaut. Est-ce que ça n'a pas des inconvénients majeurs ?
Bien sûr. Alors là, sinon, sur ce chapitre-là, moi, je suis très effrayé par d'abord... Bon, le réchauffement, je sais qu'il y a des optimistes et des pessimistes. Le réchauffement se traduit tout de même par quelques degrés supplémentaires. C'est un des problèmes, mais le problème majeur, c'est la démographie. Et j'ai connu, dans le cadre de l'Académie du Maroc, un de mes confrères qui avait pour spécialité à l'ONU l'étude des réserves d'eau de la planète et qui m'a toujours dit, alors que nous n'étions que 5 milliards, 6 milliards, que nous étions à la limite des possibilités de donner, d'offrir aux hommes l'eau qui leur est absolument nécessaire chaque jour. Cette démographie galopante, cette usure de la planète, enfin, on est malade. La faim, la soif va créer des conflits absolument, je dirais, insolubles, sauf par la violence. Et je suis très inquiet de la violence. Et je pense que ce monde d'inquiétude générale sur lequel se superposent des conflits, écoutez, le conflit Moyen-Orient est quelque chose de terrible. Tout ce qui se passe dans ce... Donc, évoque beaucoup, pour moi, presque l'avant-guerre.
Ah, vous faites un parallèle?
Ah oui. Il y avait crise économique. Il y avait la guerre de Franco. Franco qui a fait une guerre atroce comme celle qui se passe en Syrie.
Oui.
Tout ce qui est instable tout autour. En plus, les bombes atomiques, dont je crains qu'un pays qui recèle des kamikazes ne puisse pas avoir pour philosophie nationale un kamikaze.
Mais ça peut se comprendre en Corée du Nord, en Syrie,
oui,
ça peut se comprendre.
Oui, exactement. Et on se dit que là, je plains vraiment nos descendants immédiats, il va se passer des choses terribles. Et je lisais encore ce matin que l'Europe et l'Occident est en train de perdre, en quelque sorte, la direction du monde. Bon, ça peut être normal, on peut le comprendre. Mais que l'émergence des autres va finalement nous infliger, peut-être, en retour, ce que l'on a imposé aux autres. Donc là, il y a une énorme réflexion qui fait que notre société est en train de changer. Il se passe quelque chose s'arrête sur un fond alors d'inquiétude planétaire, d'inquiétude politique. Et moi, je crains que la solution ne soit la plus bête qui soit, c'est d'ailleurs la violence.
Ça nous ramène à Paul Valéry quand même, il y a un peu un siècle.
Voilà, 1917. Exactement. Oui, exactement. Alors ce pessimisme, oui, bien sûr, je me dis toujours que l'homme s'est débrouillé, que l'homme a survécu à tout, même aux catastrophes cataclysmiques qui ont agité la planète, la disparition des espèces et le dernier choc météorite de 60 millions d'années qui a éliminé les dinosaures, mais qui nous a permis d'être là. Alors, il y a toujours un côté favorable des choses aux catastrophes.
Ça dépend de quel côté on se trouve.
Voilà, exactement.
Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, Yves Pouliquen, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps? Ce n'est pas le choix qui manque. Hein.
Non. Alors, la plus grande hypocrisie, moi, je vais vous dire, c'est que finalement, on n'apprenne pas aux hommes ce qu'ils sont et là où ils sont et dans quoi ils sont.
C'est-à-dire?
Écoutez, je suis médecin, je suis biologiste, j'ai des convictions profonde sur mes origines. Et je vais vous dire simplement un exemple. Je partage avec la drosophile, la petite mouche du vinaigre, 60% de son génome. Et cette petite drosophile a le secret, a le gène de mes yeux. Donc elle est mon ancêtre. Et l'évolutionnisme qui est nié est une chose capitale pour qu'on comprenne ce qu'est l'homme. C'est-à-dire que l'homme est un animal évolué et qui, actuellement, grâce à son intelligence, a réussi à faire de ces planètes jusqu'à présent quelque chose de vivable. Mais il n'est que ça. Et c'est un élément que personne ne décrit. En plus, le miracle que nous sommes, qui est un miracle matérialiste dans notre molécule, dans notre agencement moléculaire, ce miracle est aussi quelque chose d'exceptionnel, que l'on perce peu à peu grâce aux savants. Si les hommes savaient ce qu'ils sont eux-mêmes, ils sauraient ce qu'est l'autre, comme moi je sais ce qu'est la drosophile par rapport à moi. Il y aurait dans cette connaissance-là, si vous voulez, une vérité, d'autant plus que cette vérité s'inscrivant sur cette Terre qui va imploser dans 3 milliards d'années, dans 5 milliards, elle va disparaître, et qu'il n'y aura plus aucune mémoire des hommes, aucune mémoire de ce qu'ils ont fait, sauf s'ils habitent une autre planète. Nous savons qu'il y a des milliards de milliards d'univers, et que savoir ça, pour moi, est une chose solide, essentielle, qui me définit parfaitement. Or,
c'est-à-dire que c'est une leçon d'humilité extraordinaire,
extraordinaire,
c'est ça,
et en plus de respect des autres. Parce que nous sommes dans la même aventure, et l'agglomérat que vous êtes, l'agglomérat que je suis, est si proche de l'agglomérat de notre petit chien, fait une chose d'humilité, mais une humilité dont la connaissance est une jouissance, et qui écarte, par cette position, si vous voulez, tout ce qu'on peut raconter d'autres. Bon, alors vous me direz que je suis un matérialiste. Oui, si on veut. Mais est-ce que, finalement, même dans les cadres des religions qui supposent d'autres choses, hein, le seul message, c'est d'être vis-à-vis de l'homme un être, justement, qui ressemble à celui que je veux être par rapport aux autres, c'est-à-dire ni plus ni moins, et très solidaire de cette situation quasiment éphémère.
Vous n'êtes pas loin de Camus, au fond.
Oui, bien sûr, oui, si on veut. Enfin, c'est flatteur pour moi. Donc l'hypocrisie, pour moi, c'est de ne pas dire les choses vraies. Or, il est vrai que le monde est entouré d'illusions, d'utopies, de mensonges, de choses comme ça. Peut-être, c'est une question que se posait Cabanis, sur lequel j'ai écrit et je sors un livre, le philosophe et médecin.
José Cabanis.
Non, pas José. Non, pas non, José. Non, Pierre-Jean-Georges Cabanis, du directoire du consulat.
D'accord, non pas l'écrivain, oui.
Et qui lui-même, il refusait l'utopie des religions. Et il disait tout de suite, oui, mais les hommes ont besoin de quelque chose. Ce qui revient, si vous voulez, à se fier à une histoire pour que la vie leur paraisse vivable, alors qu'il est plus difficile, si vous voulez, dans ma situation, de me dire que je sors du néant et que je rentre dans le néant.
Car c'est votre perspective.
C'est ma perspective.
Le néant.
Le néant.
Je croirais lire Céline, Voyage au bout de la nuit, Pourquoi est-on sur Terre, quoi.
Oui, encore que, si vous voulez, il n'y a pas... Le sacré existe. C'est autre chose.
Mm-hmm.
C'est autre chose, parce que même cette organisation est quelque chose de fabuleux.
Oui, ne serait-ce qu'à travers la culture.
Oui,
travers...
mais c'est magnifique. Écoutez, oui, la vie, bon, la vie, c'est rien, mais même c'est...
Rien
bon,
de la vie.
Rien de la vie, mais c'est quand même ça. Donc, ce n'est pas désespérant. Mais je crois que ça donne à l'homme sa vraie dimension, elle est humble. Et à ce moment-là, il n'y a pas de domination de l'autre, il y a un respect, et il y a aussi, je dirais, une situation dans la vie hiérarchique qui se fait d'elle-même, tout ça, ça me paraît un système, moi, qui me rassure en tout cas.
Oui, mais être Sisyphe en permanence, c'est ça au fond.
Oui, voilà.
C'est pas fatigant ?
Si, c'est fatigant, mais oui, mais si j'étais pas fatigué, je m'ennuierais.
Pour l'instant, ça ne se voit pas. Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel, quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse, Yves Pouliquen, le plus d'espoir ?
Eh bien, je ne dirais pas que c'est la découverte du gène de la longévité. Non, parce qu'on en parle beaucoup que, bon, le gène de la longévité, oui, de vivre jusqu'à 120 ans au lieu de vivre, moi j'ai 80 ans, je suis très confortable et je me dis que ça va se terminer, mais il faut être sage.
Bon, ce n'est pas que j'ai peur de la mort, mais non. Le jour où elle serait là, je préfère ne pas être là, c'est
oui,
Woody Allen.
C'est là. Bon, alors, dans les choses, il y a des choses en science là encore.
Oui,
alors,
oui.
En science, par exemple, si vous voulez, maintenant, j'ai assisté l'autre jour à la remise d'un prix à une Britannique qui nous démontrait maintenant qu'à propos du cancer, on arrive à isoler dans le sang circulant les cellules cancéreuses, à les identifier, à le savoir leur degré de malignité et aussi leur faiblesse et comment on peut les atteindre. Donc, on est à l'aube d'une ère où le traitement du cancer va tout de même faire des progrès considérables. Je pense que ce sera tout de même, il restera les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, à part les celles qui sont d'origine génétique, la plupart sont alimentaires. L'homme pourrait trouver finalement, je dirais, la possibilité de vieillir et de mourir en bonne santé. Ça, je trouve que c'est pas mal. L'autre argument qui me donne de l'espoir, mais je vais vous étonner, c'est l'émergence des femmes.
Oh ben ça, si on peut en profiter, c'est pas
désagréable. Non, l'émergence des femmes. Parce que je trouve que les femmes qui ont été réduites, si vous voulez, dans tout notre monde, dans toute notre histoire, commencent à avoir des rôles dominants. Et je pense que, opposé à la testostérone agressive des hommes, à cette compétitivité permanente des hommes, je ne dis pas que les femmes ne sont pas combatives, mais elles sont combatives sous un contrôle hormonal différent. Et que, jusqu'à présent, on n'a pas à se plaindre des femmes qui émergent. Je pense qu'elles se révèlent, à égalité des hommes, tout à fait capable de changer, d'influencer notre vie et notre politique. Et, notre... et je pense que l'émergence des femmes est aussi un élément, moi, qui me rassure. Je trouve que cette parité, en quelque sorte, parité intellectuelle, parité de pouvoir, est un élément qui me laisse penser que le monde pourrait être un peu meilleur.
Vous qui connaissez bien l'Afrique, on dit qu'en Afrique, ce sont les femmes qui ont sauvé le continent depuis...
Ah bien sûr, mais ce sont les femmes qui font tout. Ce sont elles qui ont les initiatives, ce sont elles qui font les enfants, c'est elles qui portent les paquets, mais ce sont elles aussi qui organisent la vie.
Et au point de vue médecine, ce qu'on a annoncé la semaine dernière, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, ça. L'idée qu'on puisse stopper la leucémie en utilisant le virus du sida.
Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. Oui,
là,
bah, c'est la
manipulation. Il y a une fluidité entre les concepts, le positif, oui, le négatif, alors là, c'est danger, la... le risque.
Non, si vous voulez, la génétique actuelle et la manipulation génétique, puisqu'il faut bien utiliser ce terme, est riche à l'avoir d'espoir et de danger. Alors, dans le danger, je pense que intellectuellement et moralement, les hommes sont tout de même peut-être mieux organisés qu'avant et en plus plus conscients qu'il faut l'être. Je crois qu'il y a aussi une évolution là. On hésite quand même à faire la guerre maintenant. Avant, on partait pour une dépêche, on faisait n'importe quoi, pour un soufflet. C'était horrible. Maintenant, quand même, les hommes sont plus réfléchis. Et je pense que dans ce sens-là, il y a aussi un espoir que les gens soient plus moraux. L'éthique est quand même maintenant toujours là. Et dans les manipulations génétiques, puisque j'y reviens, je pense qu'il y a des risques énormes, mais que ils sont tout de même très surveillés, très étroitement surveillés.
Il y aura moins de docteurs Faust que...
Oh, j'espère. Ouais. J'espère. Non, mais écoutez, tout est possible. On a déjà vu des abominations sur notre Terre. On peut se dire que les hommes sont capables de tout. Donc,
même du pire.
Oui. Absolument, et du pire. Ils l'ont démontré. Ils l'ont démontré d'une façon incroyable.
Et persévérante.
Et persévérante.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel a été, Yves Pouliquen, le plus grand échec de votre vie et comment l'avez-vous surmonté ou avez-vous tenté de le surmonter? Je le dis à chaque fois, la question est éminemment personnelle, donc vous avez le droit à un joker.
Non, je n'ai pas le droit à un joker. Non. Je pense que la plus grosse crise que j'ai eue dans mon adolescence, c'est la mort de mon père. J'étais un très bon élève, j'étais secoué. C'est l'inacceptable quand on a 12 ans.
Et vous le vivez comme un échec personnel?
Oui, comme quelque chose qui m'a perturbé terriblement, qui m'a marqué terriblement et qui me marque encore. Je pense que je n'ai jamais oublié cette séquence. Oui, c'est un échec, je dirais, c'est une épreuve, plus qu'un échec, mais ça m'a mis en échec quand même. Et puis j'ai quand même douté de la vie et je pense que ça a inscrit chez moi tout de même une constante référence à la mort, à la fin possible, à la fragilité de l'existence, qui m'a bouleversé pendant, je dirais...
Et pourtant, vous aviez une mère admirable qui a pris les choses, qui a pris les
admirable,
choses en main.
Admirable, admirable. Ma mère, qui était une simple femme, qui avait très peu d'instruction, a été merveilleuse. Elle avait 3 garçons. Elle n'avait que la retraite d'un instituteur mort à 37 ans, si vous imaginez. Et elle a décidé de créer à Avranches une pension de famille pour filles allant au collège. Et elle a réussi au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Elle a eu plus de 100 élèves. Donc elle a été aidée et elle gagnait juste ce qui permettait à sa famille de vivre, puisque c'était des prix très, très... Mais nous vivions, nous avons... Elle nous a amenés, elle a fait 2 professeurs de clinique et un polytechnicien.
Oui. Mais à ce moment-là, est-ce que vous vous êtes dit, Yves, c'est marche ou crève?
Oui, bien sûr.
C'est ça?
Bien sûr.
C'est quand même un mais diatique comme... formidable dans la vie, ça.
Oui, mais d'ailleurs, ça m'a motivé.
C'est ça?
Ah ben, je pense. Ouais. Non, mais même, je me dis souvent, moi, si mon père avait existé, je serais normalien. Et je serais passé à côté de ma vie.
Et normalien, y compris de votre femme. Y compris de votre femme.
Et normalien, ce fut un échec là. Parce que quand j'étais à Saint-Louis, je suis allé vainqueur. Et là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus fort que moi. Et là, je l'ai vécu mal. Et il y a une deuxième échec, c'est quand j'ai été collé 2 fois à l'externat.
Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Ah ben, deux fois avec Cernal, j'avais pas la forme, j'avais pas le... Alors après, ça s'est rattrapé, puisque j'étais reçu au troisième externat, et puis l'internat la première fois, tout ça a été très bien. Bon, mais je dois dire que là aussi, j'ai été mis en échec. Alors, à Saint-Louis d'une part, et puis j'avais choisi la médecine, et à l'externat, mais il faut dire que j'étais tout à fait ignorant du cursus médical, ouais. Et que j'étais pas dans le coup, je savais pas ce qu'il fallait faire. Il fallait bachoter beaucoup, et je ne savais pas faire, mais je me suis rattrapé depuis.
Et vous étiez en plus un petit provincial.
D'accord. Très provincial.
Ouais, c'était...
Très provincial. Très provincial.
Septième et dernière question de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, Yves Pouliquen, quelle est votre motivation essentielle dans la vie ?
Eh bien, de faire de chaque jour qui me reste à vivre, 10, 100, 1000, plusieurs mille, quelque chose de positif, qui soit utile à moi ou aux autres, mais qui soit jamais vide. Jamais vide. Mon emploi du temps de retraité est un emploi du temps d'homme actif, c'est-à-dire que le lundi...
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, le mardi, le mercredi, j'ai un emploi du temps et aussi d'hiver, ce qui est merveilleux parce que je fais encore des consultations de médecine, je fais encore l'académie de médecine, pas très souvent parce que je fais comme je peux, je travaille pour moi d'autres jours, chez l'Académie française...
Vous êtes très actif, on y reviendra.
Oui, j'essaie de faire des choses. Bon, le vendredi aussi, souvent, vendredi, samedi, dimanche, j'écris.
Oui. Et l'aquarelle, c'est quand ?
Alors, l'aquarelle, c'est les vacances.
Les vacances ?
Ah, c'est vacances. Ah oui, je suis un aquarelle vraiment impénitent, puisque j'en ai 3000.
Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre métier de chirurgien ?
Ah, le dessin. Moi, écoutez, dessin. Oui, j'ai passé le concours général de dessin. Alors là, tout à l'heure, lorsque vous me disiez les qualités du médecin, je me disais, il oublie savoir dessiner.
Savoir dessiner.
Car un chirurgien, bon, un chirurgien, c'est d'abord une tête, hein. On disait autrefois, ton fils est un peu ballot, tu le mets chirurgien. C'est pas une main, le chirurgien. La main, c'est capital. Mais la tête...
La main exécute.
Ah oui, la main exécute. Ce qu'il faut, c'est savoir ce que l'on doit faire, comment on peut le faire. Vous savez, je disais aussi à mes élèves une phrase de Napoléon à propos de la chirurgie. Napoléon est interrompu par un jeune officier viennois, je ne sais pas, en disant « Mais sire, comment faites-vous pour gagner toutes les batailles ?» Et il a répondu, mais bon, mon cher, c'est très simple, j'ai toujours imaginé comment 100 fois les perdre. Et pour la chirurgie, c'est pareil. Donc, la tête doit imaginer comment... Et vous savez que j'ai opéré quand même des gens très célèbres, avec une charge émotive, enfin parce que...
Vous avez peur.
Je n'avais pas peur. Et j'ai découvert pourquoi je me présentais en salle d'opération serein. C'est parce que la veille au soir, j'avais fait toute l'opération dans ma tête au moins 3 ou 4 fois. Et je m'endormais. Et je n'ai jamais été inquiet dans la salle.
Ça pose une maîtrise de caractère quand même assez...
Hein non,
bon, c'est une
habitude, c'est une expérience.
Oui, certes.
C'est une expérience, non.
Certes.
Puis il y a le cheval qui m'a beaucoup aidé. Le cheval, on est en danger tout le temps. J'ai toujours eu des très bons chevaux.
Ça sont les racines Finistère Nord, ça.
C'est, ah oui, exactement. Hein, et le Finistère Nord, et mes ancêtres, avant que mon grand-père soit cheminot, ils étaient de riches finistériens éleveurs de chevaux, vous voyez.
On appelait les Julots, pour
les
ceux, qui,
Julots, voilà, les Julots, exactement.
Ceux qui ne le savent pas.
Voilà.
Mais là, je vous pose la question dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'est-ce que votre activité d'aquarelliste vous a apporté en tant que chirurgien ? Ce qui est étonnant, c'est de voir que des grands peintres, je pense à Léonard de Vinci, je pense à Poussin, se sont prodigieusement intéressés à l'œil, mais presque cliniquement à l'œil. Pourquoi ?
Parce que, si vous voulez, actuellement, l'art abstrait voudrait dire que la vision est cérébrale. C'est vrai, puisque l'œil occupe presque plus de la moitié du cerveau en connexion neuronale. N'empêche que le regard sur les choses, c'est ça qui intéressait les peintres. Hein, le regard sur les choses, la perspective, tout ça, les a absolument dominés. Je me souviens avoir fait en médecine un cours avec Arica sur la perspective au Quattrocento. Ce qui a été d'ailleurs très mal reçu. On était en post-68, je peux vous dire qu'on a reçu des billes, il n'y a pas de choses. Mais n'empêche que c'était l'œil, l'optique et le rapport avec ce qu'il voyait, c'est-à-dire un plan. Un plan
D'accord.
auquel il fallait donner un relief et leur perspective, avec aussi les lumières, les ombres. Donc l'œil a été essentiel, bien sûr, pour les peintres. Et Monet a poussé à l'extrême, si vous voulez, cette capture par l'œil des paysages.
Mais quel est le regard qui vous touche le plus dans l'histoire de la peinture ? Si vous aviez à... identifier un tableau qui regarde vous.
Je pense que c'est quand même l'œil de Monet qui est un œil rustre, mais formidablement physiologique.
Avec la lumière aussi.
Oui. Non. En plus, cette capacité qu'il avait de décrypter les choses et avec une apparente simplicité de les reproduire dans leurs vibrations, dans leurs contrastes, dans leur profondeur, etc. Moi, je trouve que c'est pour moi un des... Maintenant, il est ringard. On ne veut plus aimer Monet. Hein. Moi,
oh,
oui. Oh, oui, si. Non, mais je me fais critiquer par les jeunes en disant Monet, bon, maintenant on aime Rothko.
C'est pas incompatible.
C'est pas incompatible, mais il y a une différence de grandeur, je pense, dans le regard.
Alors, nous évoquions l'Académie française. Je me demande si vous n'êtes pas l'académicien qui travaille le plus pour l'Académie. Qu'est-ce que vous avez tant à lui rendre à l'Académie ? Parce que je regarde ne serait-ce que vos interventions. Le nombre de discours et d'hommages remarqués que vous avez fait ces dernières années, pour ne prendre que l'hommage aux morts. Mort de Bertrand Port-Delpech, 2006. Et en l'espace de 3 semaines, l'année dernière,
oui,
vous faites l'hommage prononcé pour le décès de Jacqueline Romilly et l'hommage pour le décès de Jean Dutour.
Oui. Non, c'est le hasard, j'étais directeur. Oui. C'est quand on fait au directeur et donner la responsabilité de faire l'hommage,
d'accord,
de ceux qui meurent pendant que vous êtes directeur.
Ça n'est... Donc c'est le hasard.
Non, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai contribué à la création de Dire Ne Pas Dire,
oui,
qui est un site aussi qui m'intéresse. Alors pourquoi me dévoiler la... Vous savez, je suis...
À ce point, parce que c'est quand même énorme. Quoi. Vous êtes...
Ben d'abord, j'aime bien Madame le secrétaire perpétuel, j'aime bien travailler avec elle. Et puis je ne suis pas seul, la commission du dictionnaire travaille bien et beaucoup. Non, je me dis que l'Académie, c'est un privilège et que l'Académie ne vit que par ses traditions, ses travaux, ce qu'elle représente. À ce moment-là, étant académicien, il n'est pas question de se dérober.
Mais quand vous faites un hommage ainsi, je le rappelle, les trois personnes concernées, Bertrand Port-Delpech, Jacqueline Romilly, Jean Dutour, quel est votre objectif essentiel ? Parce que c'est très difficile d'éviter le cirage de pont quand même.
Non, l'objectif, je dirais que c'est plutôt le rapport émotif premier degré avec les gens. Je pense qu'il n'y a pas à raconter des choses bizarres, c'est dire les impressions qu'on avait et de leur personne et finalement du chagrin que leur mort entraîne. Alors le chagrin n'est pas... Ces trois personnes étaient vraiment très liées à moi. Donc je crois que je l'ai fait avec naturel et même rapidité, sans effort, parce que c'est une chose qui va de soi. Je ne dis pas que tous les hommages pourraient m'être aussi faciles.
Tout aussi facile, oui.
Non.
Mais est-ce que vous pourriez, puisque vous les avez très très bien connus tous les trois, nous dire une chose essentielle d'eux, une seule chose qui les révèle? Port-Delpech, vous diriez quoi ?
Port-Delpech, je dirais que c'était un homme très dévoué à l'Académie. Si vous m'accordez ce mérite, il était aussi très très proche de l'Académie et très volontaire, si vous voulez, dans l'image de l'Académie. Et je l'ai connu malheureusement dans ses derniers moments où il était très malade. Et évidemment, mon rôle de médecin vis-à-vis des trois était tout de même important.
Et Jacqueline Romilly,
Jacqueline Romilly, c'était mon amie, pleine d'humour, formidable, toujours drôle, quoique perclus de malheur sur physique, et toujours pleine d'humour, toujours jusqu'à la fin, non, sauf ces derniers mois qui furent très très pénibles. Mais Jacqueline, je l'ai emmenée en Suisse, par exemple, à 94 ans, où elle a été invitée par la haute société protestante suisse dans toutes les belles demeures suisses, où elle était, au cours du repas, la seule personne qu'on interrogeait. Elle répondait avec une aisance, elle emballait tout le monde, elle était formidable. Formidable, Jacqueline.
Et Jean Dutour ?
Jean Dutour, c'est un vieil ami, Jean Dutour. Un vieil ami, alors très fidèle, qui a eu aussi, hélas, des derniers mois difficiles. Mais Jean Dutour, alors on dînait chez Lippe avec lui. C'était notre rencontre fréquente chez Lippe. J'allais le chercher en voiture et puis je le ramenais chez lui. Alors Jean, c'était un humour différent de celui de Jacqueline Romilly. C'était un humour
assez caustique.
Un petit caustique, mais qui était très drôle. Il avait le souvenir de toutes les histoires drôles de l'Académie et de nos confrères, si bien qu'il était inépuisable. Et de dîner avec lui était un vrai régal parce qu'il savait tout sur tout le monde.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il a été victime de son brio, en fait ?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et aussi, il l'a un peu voulu.
Oui, c'est ça.
Il l'a un peu voulu. Je pense que c'était un homme charmant, très délicat. Et l'apparence qu'il donnait aux autres, c'était la rudesse. Et puis, quelquefois, même une sorte d'éloignement, qui était tout à fait trompeur. De même que, si vous voulez, Maurice Druon, qui était aussi mon grand ami, avait aussi donné quelquefois l'impression d'être éloigné. C'était un homme adorable. On l'a accusé, quand il était ministre, d'être ceci, d'être cela. En fait, c'était un homme extrêmement sensible et très charmant. Et Jean Dutour aussi. Donc, ces personnes, si vous voulez, qui ont une image dans la société, n'est pas du tout la même que dans l'intimité.
Vous évoquiez tout à l'heure vos ascendances bretonnes, donc le Finistère Nord, Guimillot. Après la guerre, en raison de l'activité de quelques centaines d'Uluberlus très proches des Allemands, on a mis sous le boisseau la culture bretonne pendant au moins une vingtaine d'années. L'année dernière, une chanteuse qui s'appelle Nolwenn vend 700 000 CD en breton.
Oui.
Comment vous interprétez ça ?
D'abord, que ce soit de l'anglais ou du breton, c'est la même chose pour les gens.
Vous croyez que c'est...
Non, c'est pas ça. Non, je crois que c'est un regard sympathique sur la Bretagne. Il faut dire que la Bretagne, écoutez, elle a changé. Vous êtes témoin comme moi. En 30 ans, elle a considérablement changé. Elle était complètement enfermée. Maintenant, elle est traversée d'autoroutes. Elle a une activité extraordinaire. Sur le plan chômage, c'est un des pays où il y en a le moins. le folklore qui a quitté le côté indépendantiste dur et violent, le folklore, au contraire, a été très bien accepté. Les Journées de l'Orient sont formidables. Mm-hmm. Hein.
Oui, et le fest-noz vient d'être consacré par l'UNESCO, patrimoine de l'humanité.
Finalement, les Bretons...
Se sont ouverts au monde, quoi, c'est ça?
Se sont ouverts au monde, et le monde...
S'est ouvert à la Bretagne.
Oui, le monde s'est ouvert à la Bretagne, et estime peut-être chez les Bretons, nous pouvons le dire en somme, mm-hmm. il y a certaines qualités chez les Bretons, hein, et celles-là sont reconnues.
Oui, je le dirais en confidence, nous sommes originaires tous les deux du même coin.
Voilà.
Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, puisqu'on parlait de votre enfance, qu'est-ce qui vous manque pour être celui que vous rêviez d'être quand vous aviez 13 ans, la mort de votre père ?
Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je trouve que j'ai été comblé au-delà de ce que je méritais. C'est tout ce que je vais vous dire. L'orphelin que j'étais à 13 ans, venant à Paris, ma femme m'a beaucoup aidé. Mais d'avoir été agrégé très tôt, choisi par les gens. Vous savez, quand Maurice Druon m'a remis mon épée, adoubé, il fallait que je réponde. En réalité, et je suis sincère en vous disant ça, on m'a toujours offert les choses. Je les ai choisies, mais on me les a offertes.
Oui, parce que vous êtes mis au service des autres aussi, il faut quand
Absolument.
Même pas...
Mais j'ai toujours dit à mes élèves, si vous travaillez bien, si vous avez bon caractère, si vous êtes dévoué, si vous êtes présent, vous irez loin. Bon, voilà.
C'est le chemin de la sainteté, ça.
Oui, alors, je vais vous dire...
Un matérialiste.
Alors, je vais vous rappeler une histoire. J'étais en quatrième en allemand, dans la classe d'allemand. Il y a le professeur Bilves, qui était un original. Il dit, aujourd'hui, on ne va pas faire d'allemand. Je vais dire ce que vous allez devenir les uns et les autres. Et il m'avait dit quelque chose qui m'avait vexé. Il m'a dit, toi, tu iras loin, t'es moyen partout. Et alors, j'étais sorti de la classe en disant, moyen partout. Il est très dur avec moi. Ben, il n'avait peut-être pas tort, vous voyez. Alors, il suffit d'être moyen partout pour arriver.
Oui,
pas mal.
Je ne suis pas certain que ce soit le viatique, mais merci de cette franchise. Ainsi s'achève cet essentiel, dont l'invité était donc aujourd'hui Yves Pouliquen. Grand nom de l'ophtalmologie de notre pays et incarnation imminente, vous en êtes rendu compte, d'une médecine humaniste. Yves Pouliquen, dont je rappelle qu'il a été élu en novembre 2001 à l'Académie française. Yves Pouliquen, merci.
Merci.
Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.